Vous m'en direz des nouvelles.
Chantal Laureau,
Laurent Salanik,
Baptiste Antoine,
Maïsa Costache.
C'est un philosophe qui déchaîne les passions pour avoir osé s'attaquer à des icônes comme Sartre ou Freud. Il s'est attiré les foudres d'une bonne partie de l'intelligentsia française. Après les attentats du 13 novembre à Paris, ses propos sur l'islam et la politique étrangère de la France ont déclenché une polémique peut-être encore plus violente. On l'a accusé de tout et son contraire, islamophobe pour les uns, défenseur des djihadistes pour les autres. On lui a même reproché de faire le jeu du Front National. Il répond aujourd'hui dans le Miroir aux Alouettes, principe d'athéisme social chez Plon. Un livre où l'on découvre aussi un homme profondément attaché à sa Normandie natale, où il a créé l'Université populaire de Caen et l'Université du goût, ouverte à tous. Michel Onfray est notre invité. Michel Onfray, bonjour.
Bonjour.
Dans quel état d'esprit avez-vous écrit ce livre que vous définissez comme un genre d'autobiographie politique ? Est-ce que vous étiez blessé, meurtri ou juste en colère après toutes les critiques qui se sont abattues sur vous ?
Oh non, c'est beaucoup plus simple que ça. Je ne crois pas être un homme de ressentiment. Je suis un homme de mémoire, mais pas un homme de ressentiment. Le ressentiment, c'est la mémoire méchante. La mémoire, elle n'est pas obligée d'être méchante. Il suffit qu'elle soit fidèle. Et quand Olivier Poivre d'Arvor, qui dirigeait France Culture, s'est retrouvé à la porte, et il m'a sollicité pour un livre d'entretien sur la politique en me disant que mon image était un petit peu brouillée dans les médias et que ce serait peut-être bien de faire un livre d'entretien. J'ai consenti à ce livre d'entretien qui finalement n'a pas été un livre d'entretien parce que j'ai fait 300 000 signes en 10 jours et que j'ai fait ce livre un peu tout seul. Et Olivier me pardonnera. Mais donc effectivement, ça ressemble à quelque chose comme une autobiographie politique, oui.
Mais est-ce que vous étiez préparé à des critiques aussi dures ?
D'une certaine manière, je le suis depuis mon premier livre, quand j'ai publié Le ventre des philosophes. Vous savez, au dos, il faut toujours dire qui on est. Donc, j'avais fait un petit truc en disant Michel Onfray n'est ni parisien, ni agrégé, ni normalien. Il vit en province, etc. Alors, mon éditeur n'avait pas trouvé ça très drôle. Il avait juste mis Michel Onfray prépare un livre sur les cyniques. Et Polak m'avait assassiné pour un livre que je n'avais pas encore écrit, en disant que ce serait de toute façon un très mauvais livre, que tout avait été écrit sur ce sujet, et que, etc. Le dernier livre écrit sur le sujet datait de 1854. Et j'ai trouvé ça extrêmement injuste, mais je ne savais pas que c'était le comportement d'une certaine meute qui détruit les gens, qui détruit les livres, qui s'allie sur le principe comme ça. Donc j'ai découvert ça à ce moment-là. Ensuite, ça a été assez massif au moment de mon Freud, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent à gagner chez des psychanalystes qui n'obtiennent aucun succès et qui estiment que Freud leur permet tout de même de continuer à pratiquer leur pensée magique. Donc là, effectivement, il y a eu un déchaînement, Libération, Le Monde, enfin tout ce monde-là signifiait que j'étais un type d'extrême droite, que je réactivais une pensée fasciste, que j'étais d'une certaine manière un nazi, puisque les nazis avaient pourchassé Freud et que je le pourchassais moi-même. Donc là, j'ai découvert à quoi ça ressemblait. Puis après, je me suis fait un petit peu une habitude, parce que ça s'est fait quand j'ai écrit un article sur Jean Solaire, dont je disais qu'il fallait lire Le Travail, un vieux monsieur qui fait des livres intéressants et importants. Ça a été ensuite, je fais un livre pour Camus, ça devient un livre contre Sartre. Et puis c'est quasi systématique aujourd'hui, donc j'en ai un peu fait mon deuil.
Vous êtes blindé.
Oui.
Alors dans votre livre, vous évoquez un petit peu, pas trop, juste un chapitre, vos racines, votre village en Normandie, un monde de vrais gens, entre guillemets, comme Pierre Billot, par exemple, ce coiffeur pour hommes du village. Est-ce que ce sont eux qui vous ont inculqué les valeurs que vous défendez aujourd'hui ?
Oui, moi je pense qu'être de gauche, c'est mener une vie de gauche. C'est pas dire qu'on vote à gauche, c'est pas dire qu'on a sa carte dans un parti de gauche, c'est pas dire qu'on est abonné à un journal de gauche, ça c'est trop facile. Et la gauche, pour moi, elle peut être parfois de droite, parce que c'est pratiquer la fraternité, c'est pratiquer la solidarité, c'est pratiquer la justice, c'est préférer la vérité à l'idéologie. Et ça, je l'ai appris auprès de gens modestes, simples, discrets, mon coiffeur, qui m'a appris un jour ce que c'était que la déportation, ce que c'était que le camp de concentration, un instituteur qui m'a appris ce qu'était le socialisme, le vrai, une institutrice qui, elle était communiste, et il y avait toujours de quoi se faire un sandwich au jambon ou ouvrir une orangina dans le frigidaire, parce que c'était une façon, à l'époque, qu'avaient ces vieux militants, laïcs et de gauche, de pratiquer la solidarité simplement et de manière concrète. Et j'essaie d'inscrire mes pas dans ce lignage-là.
Et Émile Legris, l'instituteur, vous a aussi fait découvrir les anarchistes.
Non, alors ça, c'est Pierre Billot.
C'est Pierre Billot, le coiffeur.
Chez qui on pouvait lire Charlie Hebdo, déjà. La Gueule Ouverte, Harakiri, Nouvel Observateur, qui était un journal de gauche à l'époque, puis un certain nombre de journaux de la presse locale, enfin, Ouest-France ou le Journal de l'Orne. Et un jour, il m'a effectivement dit, regarde un peu ça, il y avait des cahiers qu'on appelait les cahiers noirs et rouges, et ma sensibilité de gauche a trouvé son sens et sa forme chez les anarchistes. Alors, ils sont divers et multiples, il y a des autoritaires, il y a des pragmatiques, il y a des Allemands, il y a des Français, il y a des individualistes, mais j'ai découvert Proudhon, et c'est un socialisme pragmatique et concret auquel je reste attaché.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Georges Brassens, mourir pour des idées, ça vous parle, Michel Onfray ?
Ah oui, parce que d'une certaine manière, j'ai un peu appris l'anarchie chez lui aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les grands textes de Macno, de Bakounine ou de Kropotkin. Il y avait aussi cette façon d'être anarchiste, une façon un peu française, comme il y a eu des Sébastien Faure, des Jean Grave au XIXe siècle. Et j'aimais bien le Brassens qui disait « Mais moi, j'aime si peu les flics que je traverse la rue dans les passages coutés parce que j'ai pas envie d'avoir affaire à eux. » Et c'était une façon très, très libertaire de se comporter à l'endroit de l'ordre et de l'autorité, qui m'intéresse un peu plus que les vociférations du genre « il faut pendre les bourgeois avec la tribu du dernier curé » ou ce genre de choses. C'est une anarchie très efficace, celle de Brassens.
Alors vous dites qu'il n'y a plus de place en France pour le débat. Or, vous êtes sans doute le philosophe le plus invité sur les plateaux de télévision. Mais si je vous ai bien compris, vous trouvez que les plateaux de télé ressemblent de plus en plus à des tribunaux plutôt que des lieux de débat, d'échange ?
Oui, alors c'est pas parce qu'on apparaît dans un média qu'on débat. On peut apparaître dans un média et se faire inviter, y compris par des gens qui nous reprochent d'accepter d'être invités et d'être partout alors que c'est eux qui nous invitent. Je veux dire, j'ai droit à ça régulièrement sur d'autres antennes où je ne vais plus. Mais on y est invité juste pour s'y faire insulter. C'est-à-dire qu'on est invité, pas comme avec vous, je veux dire, mais je fais pas ça par flagornerie, mais je suis pas venu chez vous par hasard. Mais on est invité pour servir de punching ball. Et on dit, mais ça s'appelle un débat. Et le débat, c'est expliquez-nous, vous avez écrit ceci à telle époque dans tel journal de potache, à telle époque vous avez dit ça dans une radio suisse, vous avez fait une télévision en Allemagne dans laquelle vous disiez que, on sort tout ça du contexte et on dit justifiez-vous, vous n'êtes pas fasciste, vous n'êtes pas nazi, vous êtes sûr, vous n'êtes pas antisémite, vous n'êtes pas sûr que vous ne faites pas le jeu du Front National ou ce genre de choses, l'émission se termine et on dit mais vous voyez qu'il y a eu un débat. Et quand on a été positif dans un livre, on n'est jamais invité pour la positivité du livre, mais on est invité pour rendre possible une espèce de chose qui va rendre possible le buzz qui permettra la reconduite de l'animation parce qu'il aura fait des bonnes audiences, donc je ne suis pas dupe du jeu médiatique et je pense effectivement que le jeu médiatique empêche le débat véritable.
Et vous êtes très dur avec la presse, hein. Vous dites qu'elle est prisonnière à la fois des annonceurs et d'une pensée dominante du politiquement correct.
Mais c'est pas être dur ça. C'est...
Vous parlez d'inquisiteurs, de procureurs, d'avocats généraux.
Bah, quand vous avez droit à des unes de presse qui font de vous le support du Front National ou les intellectuels revendiqués par le Front National, le Monde fait ça avec une photo qui est un quart de page et qui est ma photo. Ça fait 13-14 ans que je fais une université populaire. On n'a jamais vu ces gens-là faire un reportage sur l'université populaire à Caen. Et d'un seul coup, je fais le jeu du Front National, alors qu'en 2002, j'ai créé cette université populaire pour lutter contre les idées du Front National. C'est pas être dur que de dire effectivement qu'ils se choisissent des ennemis qui sont quand même un peu étonnants. Je suis étonné de voir qu'on préfère inviter Joe Starr comme rédacteur en chef invité dans Libération que moi qui défends une gauche depuis un certain temps. Donc le dire, C'est pas être cruel, c'est pas dire des méchancetés, non, c'est juste renvoyer une image qui me paraît être assez fidèle.
Je crois que vous avez l'intention de lancer un média indépendant. Vous en êtes où ? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement ?
Je voudrais qu'on puisse entendre la voix de l'université populaire, c'est-à-dire pas la voix de Michel Onfray, parce que c'est pas moi, ce sont aussi mes amis, une vingtaine d'amis, qu'on n'entend pas et qu'on n'invite pas et qu'on ne sollicite pas et qui disent pourtant des choses sur tous les terrains, épistémologie, philosophie générale, philosophie pour enfants, enfin cinéma. Et donc je voudrais que ça puisse être le média de l'université populaire.
Ça existe depuis 2002.
Oui, depuis 2002. Et je souhaiterais aussi qu'on puisse y faire des émissions de longue durée, c'est-à-dire permettre à quelqu'un, pendant une heure, de dire ce qu'il a à dire sans être interrompu, sans être obligé de lui mettre trois invités devant le nez qui vont le questionner, comme on passait jadis à la question. Je voudrais pouvoir aussi intervenir librement sans avoir d'obligation à jouer les jeux du cirque en me disant il va falloir passer entre les crachats, les insultes et peut-être qu'on n'aura même pas l'occasion de placer une idée. Donc prendre le temps justement du débat, de l'échange, de la proposition et librement parce que on est dans un bénévolat complet donc on n'aura pas de compte à rendre à des annonceurs ou à des gens qui nous demanderont de faire de l'audimat ou de vendre quoi que ce soit.
Et ça devrait commencer quand ?
Dans le mois qui suit, là, on a le matériel, on a tout ça, on a le lieu, on est en train de se former un petit peu, et puis on travaille avec des gens qui sont en train de rendre diffusable, j'ai pas le vocabulaire technique pour tout ça, mais plus d'une dizaine d'années de prise de vue, donc non, c'est pour bientôt.
Et alors, est-ce que pour vous, un philosophe se doit d'intervenir dans le débat public ? Vous pensez qu'il doit tenter de faire bouger les lignes ?
Il y a plusieurs façons d'être philosophe et moi je n'ai jamais été de ceux qui disaient machin n'est pas philosophe, un tel n'est pas philosophe, je ne distribue pas des bons points de celui-ci est un philosophe ou celui-ci n'est pas un philosophe. Il y a des philosophes, des philosophies, certains sont des philosophes concentrés sur un sujet, une question, ils sont dans le méditatif, ils sont dans le travail de cabinet, de bureau, dans une édition un peu pointue et technique, universitaire. Je n'ai rien contre eux, donc ils peuvent très bien travailler sur un sujet comme, je sais pas, le concept de droit chez Leibniz. Et puis voilà, il y a d'autres philosophes qui peuvent intervenir dans la cité. Et je pense effectivement qu'on ne peut pas se contenter d'écrire des livres. Il faut pouvoir intervenir dans la cité parce que c'est la grande tradition de la philosophie depuis toujours. On a ça dans l'Antiquité. Un philosophe, c'est d'abord quelqu'un qu'on rencontre sur l'agora ou sur le forum et qui rencontre des portefaix, des charpentiers, des potiers, des tisserands et pas du tout un professeur qui parle devant des élèves bouche bée. Non, je suis pour l'arène, pour le débat public. Il faut rencontrer les gens, le monde et surtout penser. Le monde, c'est-à-dire il ne faut pas penser les pensées qui pensent le monde, il faut penser le monde réellement directement.
Vous écrivez par exemple « comprendre n'est pas excuser, expliquer n'est pas valider, analyser n'est pas bénir, réfléchir n'est pas absoudre ». Est-ce que ça c'est une pique à Manuel Valls ?
Non, enfin ça l'est devenu parce que on peut même se demander si c'est pas Manuel Valls qui répondait à ce que je disais précédemment. Mais le travail du philosophe est un travail de généalogie. C'est-à-dire que moi mon problème n'est pas de dire Marine Le Pen est une fasciste qui réactive la pensée d'Adolf Hitler et qui si elle était au pouvoir ouvrirait des camps de concentration. C'est facile de dire des choses pareilles. Ma question est pourquoi 30% des gens votent pour Marine Le Pen. Ma question n'est pas de dire il y a des gamins qui descendent avec des mitraillettes dans la rue et qui à coup de Kalachnikov tuent des innocents. C'est la barbarie, c'est le retour de la sauvagerie ou ce genre de choses. Ma question est pourquoi des jeunes font-ils ce genre de choses ? Si un philosophe...
Et pour Manuel Valls, essayer de comprendre, c'était excuser. C'était ce qu'il avait dit, hein, ce qu'il avait été...
Oui, origine. Mais vous savez, Manuel Valls, ça compte pour rien dans le domaine de la pensée. Donc c'est pas lui qui est ma mesure. Mais je pense que Nietzsche est ma mesure, en revanche. Et quand Nietzsche pose la question de la généalogie, il fait le travail que devraient faire les journalistes, que devraient faire les historiens, que devraient faire les philosophes. C'est-à-dire d'où ça vient. Ça ne tombe pas du ciel le terrorisme. Ça ne tombe pas du ciel une France à 30% derrière Marine Le Pen. Ça ne tombe pas du ciel parce que ça monte de terre. Et comment est-ce que ça monte de terre ? Comment est-ce que ça germe ? Comment est-ce que ça pousse ? Qui a planté ces graines-là ? Comment est-ce que les choses se sont passées ? C'est le travail que je propose de faire. C'est le travail que je fais pour ma part. Alors c'est bien plus facile évidemment pour ceux qui ont rendu possible Marine Le Pen en renonçant à la gauche, en faisant de l'argent, du libéralisme et du marché, de Bernard Tapie des valeurs et des vertus dans les années 83. Tous ces gens qui ont accompagné ce mouvement de pourriture, de décomposition qui a rendu possible ces fleurs vénéneuses, ne veulent pas qu'on dise qu'effectivement ils ont une part de responsabilité. C'est donc d'autant plus facile de dire voilà, celui qui dit comment les choses se sont passées est celui qui est responsable et celui qui est coupable.
Parce que vous rappelez que le Front National, quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir en mai 81, était à 1%.
En dessous d'un pour cent.
En dessous d'un pour cent.
Il est à 30% aujourd'hui. Et quand on parle de politique, on ne parle que de lui. C'est le Front National qui est le noyau dur de la politique française. Faire le jeu du Front National, s'allier au Front National, faire barrage au Front National, voir ce que le Front National dit sur ce sujet-là. Enfin, c'est devenu le parti politique inévitable en France. Pourquoi? Et effectivement, je dis, mais regardez comment la gauche a instrumentalisé tout ça pour éviter qu'on voie son impéritie, pour éviter qu'on voie qu'elle s'était convertie au libéralisme, pour éviter qu'on voie qu'elle n'avait pas réussi à mener une politique véritablement de gauche. Et il fallait effectivement faire diversion. Et comme la gauche de Mitterrand savait qu'elle ne serait pas réélue sur un programme, mais qu'elle serait probablement réélue sur la division de la droite, elle a joué de cette division de la droite en instrumentalisant un Front National qui, un peu comme le ballet de l'apprenti sorcier, lui échappe aujourd'hui. Et depuis que Mitterrand a instrumentalisé le Front National en intervenant dans les médias pour que Jean-Marie Le Pen puisse s'exprimer, eh bien tout ce travail a porté aujourd'hui ces fruits, ce sont des fruits vénéneux et personne parmi les responsables ne dira on a été coupable, on a été responsable. Il vaut mieux désigner plutôt le pompier comme responsable du feu, alors que moi je ne fais jamais que démonter les rouages de cette machine dont tout le monde dit qu'elle est pénible.
Alors vous êtes très critique envers la politique étrangère de la France, qui selon vous est une politique de guerre faite à de nombreux pays musulmans. Quand la France intervient par exemple au Mali, elle ne fait pas la guerre à un pays musulman, elle s'en prend à des groupes terroristes ou djihadistes. Pour vous, il n'y a pas de différence? Vous dites pays musulman à chaque fois.
Oui, mais parce qu'il s'agit quand même d'attaquer des musulmans. Je pense que les troupes que nous combattions là-bas étaient des troupes musulmanes. Mais simplement, là aussi, je veux poser la question, pourquoi intervient-on au Mali? On ne va pas me faire croire que c'est parce que le président du Mali a demandé. Hein. On a demandé au président qu'il nous demande. Mais je demande juste que, toujours dans cette logique de la généalogie, on fasse un peu de géologie. Un peu de géologie pour savoir à quoi ressemble le sous-sol du Mali et quelles sont les relations que les pays européens entretiennent avec le sous-sol du Mali, notamment avec l'uranium qui rend possible nos centrales nucléaires. C'est quand même très étonnant qu'on intervienne dans certains pays et pas dans d'autres. Pourquoi on n'intervient pas en Corée du Nord? Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas à Cuba? Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas en Chine? Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas en Arabie Saoudite où on sait très bien que les droits de l'homme sont abondamment bafoués? On intervient comme par hasard dans des pays où on a des intérêts économiques, des intérêts qui relèvent du néocolonialisme. Moi, je pense que l'Afrique a à s'occuper de son propre destin, que nous n'avons pas à gérer les problèmes de l'Afrique, mais aussi de tous les autres pays du monde. Je pense que cette théorie du droit d'ingérence de Bernard Kouchner est terrible. C'est terrible, le droit d'ingérence. Ça justifie prétendument qu'on puisse aller faire la loi dans les pays étrangers au nom des droits de l'homme. C'est-à-dire on tue des gens au nom des droits de l'homme. On supprime des dictateurs en prétendant qu'on va instaurer de facto la démocratie. Et quand on a tué un dictateur laïque, on obtient une anarchie qui est dommageable, puisqu'on voit bien aujourd'hui que tous les flux migratoires sont induits par les politiques que nous avons menées depuis 1991, derrière George Bush, et qui est une politique impérialiste pour l'économie, et sauf quelques rares épisodes, je pense à Jacques Chirac et à Villepin, avec un magnifique discours qui a été donné à l'ONU, nous avons effectivement mené une politique qui a été dommageable pour un certain nombre de pays musulmans, je rappelle souvent que 4 millions de morts musulmans ont été occasionnés par cette politique décidée par Bush en 1991, une politique à laquelle souscrit François Mitterrand. C'est-à-dire trahison politique de Mitterrand en 83, il cesse d'être de gauche et devient libéral, on a Marine Le Pen. Trahison du pacifisme de gauche en 1991, Mitterrand s'en va derrière George Bush pour tous ses passages à tabac sur la planète qui génèrent aujourd'hui le terrorisme dans nos rues, en partie.
Alors on va essayer de terminer sur cette première partie sur une note peut-être un peu plus optimiste avec l'histoire du colibri et Pierre Rabhi. Chacun peut apporter sa goutte d'eau pour faire changer les choses.
Alors c'est Pierre Rabhi effectivement qui donne son écho à cette histoire, mais c'est une légende qui sort de la forêt amazonienne. Ça procède de la sagesse des peuples d'Amazon. J'étais il y a quelque temps en Guyane et j'en ai rencontré quelques-uns. Je suis toujours très très ému par ce peuple fossile au sens noble du terme. C'est un peuple qu'on massacre, mais enfin bon. Et effectivement, le colibri, on raconte qu'il y a un incendie dans la forêt et que le colibri s'en va porter quelques gouttes d'eau dans son bec sur l'incendie. Dit et que tout le monde se moque. Le boa constrictor se moque, le phacochère se moque, enfin tous les animaux se moquent du colibri en lui disant t'as bonne mine avec tes trois gouttes d'eau sur la forêt. Et le colibri dit oui, ça ne suffira pas, mais moi j'ai fait ma part, vous avez-vous fait la vôtre?
Michel Onfray, on se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash d'information.
Mardi.
Vous m'en direz des nouvelles. Chantal Leroux.
Michel Onfray est notre invité pour son autobiographie politique Le miroir aux alouettes et Patrick Frémaux nous a rejoint dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes galeriste, marchand d'art, mais aussi éditeur de philosophie et d'archives sonores. Et votre galerie à Vincennes, Patrick Frémaux, abrite jusqu'au 28 mai une exposition plutôt originale. On peut admirer des masques et des statues africains aux côtés de lithographies et d'estampes du peintre Robert Combas, tout en écoutant une conférence de Michel Onfray sur Combas. Comment avez-vous eu l'idée de cette interaction, de ce dialogue entre les œuvres de Robert Combas et l'art africain ?
Bah, l'idée, elle saute aux yeux lorsqu'on voit l'œuvre de Combas. Et le cours de Michel exprime cet aller-retour entre ce peintre contemporain qui est l'un des peintres les plus importants français à l'heure actuelle dans le monde, avec Alain Chesky. Qui est présent dans beaucoup de musées et qui pourtant n'est pas une expression abstraite, n'est pas une expression intellectuelle, mais une impression du ressenti et infiniment plus précise. Donc le travail des éditions et de la galerie Frémaux et Associés, c'est de faire tout un travail sur le patrimoine, quel qu'il soit, en mettant à égalité les patrimoines populaires des patrimoines intellectuels. Donc que ce soit au niveau des archives, on a aussi bien les discours de tous les présidents de la République, de Léon Blum jusqu'à Jacques Chirac en passant par Pierre Mendès France, que des témoignages de mineurs, des témoignages de marins. Donc il y a cette volonté toujours qu'il y ait un aller-retour entre l'histoire un petit peu... stigmatisé par les grands hommes et l'histoire qui a été vécue par le peuple. Idem dans la musique, puisqu'on est maintenant la dernière grande maison de disques culturelle indépendante en France. Cet aller-retour entre les musiques folkloriques et les musiques écrites ou les musiques élaborées urbaines comme le jazz. Et donc, pour la galerie, c'est la même chose. Il y a des allers-retours entre des œuvres intellectuelles et des œuvres d'art coutumier ou des œuvres d'art tribal. Et le lien entre Combas et l'art coutumier africain, il est pour moi dans une espèce d'évidence sur le message qui passe sans pour autant qu'il ait été forcément intellectualisé.
Michel Onfray, vous aussi, il vous semble évident ce lien, cette filiation entre l'art tribal et l'œuvre de Robert Combas ?
Oui, bien sûr, et l'exposition de Patrick est vraiment éclairante pour ça. Moi, j'ai trouvé qu'elle était vraiment bien faite, que l'accrochage permettait vraiment un travail contrapuntique, vraiment entre le travail des sculptures, les patines, les bois, etc., et puis le travail de Combas. Il n'y a pas que du Combas, d'ailleurs, Patrick, hein, il y a quelques autres gravures et qui sont de ta galerie, et effectivement, il y a un éclairage mutuel, et ça paraît évident.
Et donc, les statues viennent de plusieurs pays, d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi d'Afrique de l'Ouest ?
Bah, c'est la tradition française, tout simplement pour la raison historique de la France dans l'Afrique de l'Ouest, qui est la même lorsqu'on voit des ports gérés par Bolloré ou autres. C'est que les Français connaissent très très bien l'histoire d'art coutumier d'Afrique de l'Ouest.
Donc les statues viennent, on peut citer quelques pays, Côte d'Ivoire, Niger, Mali, Nigeria.
Voilà, et des grandes ethnies, des grandes civilisations que sont les Dogons, les Bambara, qui sont d'une créativité culturelle, d'une beauté qui depuis André Breton, Picasso, etc., a révolutionné le surréalisme, l'art moderne. Donc ça a une importance qui est quand même fondamentale dans l'histoire du XXe siècle du point de vue esthétique.
Michel Onfray, dans Le miroir aux alouettes, vous racontez que c'est sans doute chez le coiffeur pour hommes de votre village en Normandie que vous avez contracté votre goût pour l'art africain. Qu'est-ce qui vous attire dans l'art africain ?
Oui, on avait dans le village le fils d'un mécanicien qui était devenu prof de géographie à Dakar et qui avait rapporté un masque d'âne à Pierre Billot, mon ami coiffeur. Donc, et effectivement, il y avait ce masque qui m'a regardé pendant toute mon enfance, pendant qu'on se faisait coiffer, là, qui était un peu extravagant dans un petit salon de coiffure. Et effectivement, je suis un peu collectionneur d'art africain parce que je trouve qu'il y a une vérité fossile dans ce peuple. Quand je dis fossile, c'est précieux, comme un diamant est un fossile. Et moi, j'aime les pensées animistes, j'aime les pensées polythéistes, j'aime le rapport au monde des Africains. Même si d'autres endroits m'intéressent, je suis un peu collectionneur aussi d'art chamanique du Népal, parce qu'il y a une pensée primitive que nous avons perdue. Les gens à l'époque n'étaient pas séparés de la nature, ils étaient dans le cosmos, présents dans le cosmos, et il y avait des chamans qui étaient des grands génies pour capter l'énergie du monde, et je trouve que cette sagesse qui a quand même été abîmée par le colonialisme et le colonialisme spirituel qui a été le christianisme dans ces pays-là, ils nous donnent des leçons, des vraies leçons d'écologie qui pourraient être des leçons d'écosophie. Quand on s'intéresse à l'art africain, on voit effectivement qu'il y a des pensées extrêmement élaborées, Patrick parlait de Bambara par exemple, des pensées extrêmement élaborées, ou Dieudo, par exemple, de Marcel Griaule, qui nous permettent de voir qu'il y a une cosmogonie, une philosophie, une sagesse. Et en Occident, on a un rapport un peu ethnocentré, c'est-à-dire la philosophie, elle commence en Grèce, au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est pas vrai. Il y a une philosophie africaine, bien sûr, il y a une philosophie chinoise, il y a une philosophie indienne. À l'époque, les gens circulaient, et dans leur circulation, les circulations de commerce, si vous regardez les voies de commerce, vous apercevez que les philosophes, les penseurs, les sages, les chamans, les astrologues, qui sont aussi des astronomes, tous ces gens-là utilisaient les mêmes voies, discutaient, et qu'on ne peut pas imaginer que la pensée présocratique, par exemple, d'un Pythagore, se soit faite sans les pensées primitives, premières au sens étymologique, des Indiens, les fameux gymnosophistes, qui sont finalement les hindouistes, et il y a dans la pensée africaine matière à une vraie philosophie du monde, une cosmogonie, une philosophie, une ontologie, enfin je prends cette philosophie-là très au sérieux, et j'estime qu'on devrait éditer plus encore leurs textes, qu'on pourrait faire un travail, ce que fait Patrick, des travaux de recollection ou de collection des oralités, puisque les civilisations orales, par définition, disparaissent en même temps que ceux qui ne sont plus capables de les transmettre, soit parce qu'elles n'ont pas été transmises, parce que les anciens ont disparu, soit parce qu'il n'y a pas eu un micro qui leur a été tendu à ce moment-là. Mais il y a une sagesse à aller voir dans ces mondes-là, et quand j'achète un peu d'art africain, je me retrouve en présence d'un témoignage de cette sagesse qui nous est, hélas, étrangère.
Et c'est le côté chaman aussi chez Combas qui vous a attiré ?
Oui, bien sûr. C'est un chaman, Robert. C'est un vrai chaman. On lui dirait, tu ne vendras plus jamais aucune toile, tu ne pourras plus jamais être exposé nulle part, tu ne seras plus jamais chroniqué dans aucun journal, je ne sais quoi. Il continuerait parce que c'est un homme qui est une pile électrique. Il est en relation avec l'énergie du monde et je l'ai vu travailler, j'ai vu comment il fabriquait des toiles. Et de fait, on voit bien qu'il est branché directement sur l'énergie du monde. C'est un cosmographe. Un sismographe
du monde. Oui. Et c'est aussi ce côté chamanique que l'on retrouve dans les statues et les masques que vous exposez, puisque beaucoup ont servi pour des cérémonies rituelles, des cérémonies d'initiation.
Alors c'est vrai que nous présentons de l'art coutumier, c'est-à-dire des objets qui ont servi, des statues qui ont servi à des cultes, des masques qui ont dansé. Et c'est tout l'intérêt de cet art qui a une vocation cultuelle en sus de notre capacité à y voir une prouesse esthétique. Mais ce que j'ai réalisé moi-même lorsque l'expo était montée, c'était que Michel Onfray et moi-même étions dans deux sens différents, mais dans la même direction. C'est-à-dire que, à l'instar du musée, des collections qui étaient au musée des colonies dans le bois de Vincennes et qui sont passées au centre de Paris dans le musée du Quai Branly, et Paris qui a donné ce geste de dire, bah vous voyez, tout cet art coutumier, tout cet art ancestral primitif, nous le mettons au centre de Paris, à l'égal du musée du Louvre, du musée d'Orsay, donc à l'égal de l'art occidental. C'était un signal très fort de reconnaissance de l'institution à l'égard d'autres formes d'art. Les éditions Frémaux Associés, la galerie Frémaux Associés aime bien rapprocher toujours des arts qui ne sont pas des beaux-arts, qui sont des arts sur lesquels il y a beaucoup de préjugés, avec des formes d'art, elles, qui sont reconnues officiellement, et montrer que les liens sont évidents. Et Michel a fait l'inverse, mais pour prouver la même chose, il a pris l'artiste contemporain actuel, à mon avis, le plus important de sa génération, et il lui a donné toute sa légitimité en allant vers l'ancestralité des savoirs, du pouvoir et de la connaissance. Et Michel fait ça pratiquement au même moment que Cosmos, où il nous dit qu'il faut savoir comprendre le monde, et pas uniquement au travers des livres, mais au travers de la réalité de notre perception. Et l'aller-retour qu'il y a entre Combas et, en effet, Combas est un chaman, c'est évident, et toute l'histoire primitive de la création, de la force, de la capacité à représenter quelque chose qui va passer tous les signifiants de cette chose sans pour autant que ce soit expliqué ou analysé, eh bien, c'est cet aller-retour entre nos arts intellectuels de la ville, etc., et la vérité d'où on vient, que je trouve extrêmement forte dans cette exposition.
Djago, c'est un chant de funérailles des femmes du pays Dogon au Mali. Michel Onfray, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Combas, comment on peut décrire son style ? La couleur, la gaieté, l'énergie, comment vous décririez les peintures de Robert Combas ?
Ce que vous venez de dire, couleur, brutalité, énergie, simplicité, efficacité, c'était extrêmement direct. C'est-à-dire que ça n'est pas médiatisé par l'histoire de la culture. On est loin du conceptuel, on est loin du minimal, évidemment. On est d'abord dans la peinture, on est dans la matérialité de la peinture. Et voilà quelqu'un qui veut des peintures, que je dirais, jaculatoires, quoi. Il a des rouges, des bleus, des jaunes qui sont extrêmement vifs. Il fait des grands aplats et il entoure ces aplats d'une ligne noire qui est un trait assez caractéristique, c'est-à-dire que ça renvoie parfois à la culture de la bande dessinée. Et il invente des paysages très primitifs qui sont des paysages oniriques, des paysages qui procèdent d'expériences aussi de champignons hallucinogènes jadis, ou d'une présence dans une secte. C'est un vieux monde à l'époque, ça, chez Robert Combas. Mais il est dans la connaissance par les gouffres et il travaille en prise direct avec la matière, c'est-à-dire que quand on le voit devant sa peinture, il est presque comme courbé. On sent que l'énergie le traverse et le courbe et le tend aussi en même temps. Et c'est assez magnifique de le voir peindre et de voir comment tout ça prend forme. Il commence par les grands aplats de couleurs, puis après il fait comme une espèce d'orfèvre, ce fameux trait noir qui entoure toutes ces surfaces. Et au bout du compte, tout surgit. C'est-à-dire tout ce chaos qui était a priori désordonné, quand il a fini avec ses fameux traits noirs, il a donné un ordre et il a contenu. Robert, il a horreur du vide, sa peinture a horreur du vide. C'est-à-dire que tout ce qui peut s'y trouver, s'y trouve. De la couleur, des lignes, des forces, des formes, de l'énergie et tout ça. Et Patrick a raison de dire que c'est le grand peintre aujourd'hui. Il y a des grands, hein. Il reste Alechinsky, il reste Pierre Soulages, qui est aussi de Sète, et on a des grands peintres en France. Mais de fait, il est dans une énergie assez considérable. Il fait de la musique aussi, il chante, Robert.
On va l'écouter tout à l'heure.
Ah, tant mieux.
Mais vous dites qu'il est doué pour le dérèglement de tous les sens. C'est ça ce qui donne cette petite dose de folie aussi quand on regarde ses œuvres.
Oui, alors ça c'est une citation de Rimbaud, La lettre aux voyants. Et effectivement, il invite au dérèglement de tous les sens. Et oui, c'est un ogre en tout, Robert. C'est-à-dire, il mange pas beaucoup, mais il a un petit corps. On a l'impression qu'il a quasiment pas de corps, alors que le corps est tout. Et de fait, il voit plus et mieux et plus loin. Il entend plus et mieux et plus loin. Enfin, il a un rapport sensuel au monde qui est un rapport cannibale. Et sa peinture est une peinture de cannibale.
Et alors, cette folie, on va la ressentir aussi dans la musique de Robert Combas et de son groupe Les Sans Pattes.
Traverse sur les montagnes. Neige, pierre, monte, montagne haute sans fin. Sombre montagne de neige. Très loin, va loin. Pour m'éloigner enfin. pour m'éloigner de toi. Train va loin, traverse les grands paysages. Train par loin, retiens ton souffle et ta rage. Train va loin, sans pour m'éloigner de toi. Train mirage d'acier, je me parluis oublié. Train va vite, loin au bout de la terre. Neige, pierre, sapin, sapin plein de pluie. Neige, pierre, monte, monte la montagne. Rocher, neige, pierre, les animaux apeurés. Le train loin va loin pour m'éloigner de toi. Le train loin, les animaux apeurés. Le train loin pour m'éloigner de toi, 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 toi.
Robert Combas et les Sans-Pattes, un été à 7 et dans ma tête. Michel Onfray, Robert Combas fait partie des artistes qui sont venus à Caen participer à l'Université du Goût que vous avez créée il y a 10 ans. Il y a toujours cette même idée de vouloir ouvrir la culture au plus grand nombre.
Oui, alors c'était l'Université populaire du Goût d'Argentan à l'époque, hein, parce qu'il y a deux universités populaires, celle de Caen oui. Et puis celle d'Argentan qui est l'Université populaire du Goût. Et puis
où là, il y a la musique, la peinture, voilà. L'opéra.
Voilà, il s'agit d'exercer les cinq sens. Donc évidemment, peinture, musique, littérature, mais gastronomie, œnologie. Et Robert nous a fait l'amitié d'abord, je lui ai consacré une journée, et il est venu, et on a mangé des tielles de 7 avec l'ami Siani, qui a fermé son magasin à 7 pour venir. Il a traversé toute la France, y compris Paris, avec des tielles, et on a mangé cette spécialité sétoise. Et puis il a fait de la musique, et il a peint en direct. Les gens ont vu comment on aborde physiquement une toile blanche, et puis comment on finit par faire une œuvre qu'on finit par signer. Donc je souhaitais effectivement qu'on puisse le montrer à l'œuvre, qu'on puisse montrer ce que c'est qu'un travail de peintre et d'artiste, comment ça se passe, quelle est l'espèce de transe, parce que je pense que c'est ce qui correspond tout à fait à Robert, mais quelle est la transe qui le travaille quand il se met à peindre. C'est pas un miniaturiste, c'est quelqu'un dont le corps est parcouru de soubresauts d'une certaine manière, et la peinture aussi. Et on a pu inviter, j'ai aussi invité Adami, qui est le contraire en peinture, qui est justement lui un miniaturiste calme, posé, la grande tradition de l'Italie du Nord, intellectuel de l'Italie du Nord, ou d'autres amis. Et pendant très longtemps, pendant 10 ans à Argentan, j'ai fait venir des amis peintres, Ernest Pignon-Ernest, Velikovic, Gilles Ayot, Ben est venu aussi, Gérard Fromanger et quelques autres, parce que je souhaitais Gérard Garoust, faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire montrer à des gens, dans la petite médiathèque d'Argentan, que des grands peintres existaient aujourd'hui, qu'ils étaient vivants, qu'ils étaient contemporains, qu'on pouvait les rencontrer physiquement. Ils sont tous venus, sauf hélas Gilles Ayot qui n'allait pas très bien, il est décédé le mois suivant, mais ils sont tous venus pour que les gens les voient, puissent parler de leurs œuvres. On a pu voir leurs œuvres pendant 2 ou 3 mois, ça, c'était des expositions d'été. J'écrivais des livres pour les remercier d'ailleurs, c'était un peu comme ça que les choses se passaient. Et c'est à mon avis une éducation du goût, c'est-à-dire qu'on fait goûter des grands vins, des bons vins, des bonnes cuisines, on fait venir des grands chefs, on fait écouter des belles musiques, on fait voir des belles peintures ou des grandes peintures, on fait rencontrer des grands peintres. Enfin, c'est l'équivalent de ce qu'étaient les universités populaires à la fin du 19e siècle, mais là, sur le terrain du goût et du jugement de goût.
Et vous faites tomber les barrières entre les artistes et les gens. Les gens ne sont pas intimidés, ils peuvent facilement échanger.
Ils le sont a priori, puis a posteriori, ils savent qu'on est prescripteur et que quand on propose quelque chose, on n'est pas là pour humilier les gens. La culture sert souvent à humilier. Moi, je veux que la culture serve à édifier et à réunir et à rassembler les gens. On s'en sert pas pour dire « moi, je connais, vous ne connaissez pas » et donc je suis dans une logique de distinction, pour utiliser le vocabulaire de Bourdieu. Non, c'est une occasion de communauté, la culture, pour moi. Et effectivement, j'ai vu des gens pleurer. Après avoir touché un piano, il n'avait jamais vu de piano. Et donc, comme si une soucoupe volante était atterrie, on avait installé ça sous des toiles. Et on faisait des fêtes de la musique régulièrement. Une amie qui est cantatrice, Maya Villanueva, qui était venue chanter. Et alors, au début, ils rigolent, ils se donnent des coups de coude parce que c'est la Castafiore. Et puis après, ils s'arrêtent. Et puis, ils finissent la bouche ouverte. Et effectivement, ils pleurent aussi. On voit quelques larmes parfois. Parce que, voilà, des gens à qui on a dit la peinture, la culture, la littérature, l'art contemporain, le bel canto, c'est pas fait pour vous. Vous êtes des paysans, vous êtes des ploucs, vous êtes des provinciaux, vous habitez dans une sous-préfecture, vous n'êtes pas destiné à ce genre de choses, vous n'êtes pas des lecteurs de, je sais pas quoi, de Télérama ou autre. Et d'un seul coup, on dit, mais non, c'est pour vous aussi, si vous voulez. Et là, on a des grands moments d'émotion parce que la culture, c'est fait pour ça. C'est fait pour fabriquer de la communauté, de la République, hein, au sens étymologique.
Et cette aventure, elle continue à Argentan ?
Non, parce que j'ai eu des difficultés. D'abord, j'ai perdu ma compagne avec qui j'ai vécu pendant 37 ans à Argentan. Donc, j'ai quitté cette ville le jour de son enterrement. Et puis, je me suis replié sur mon village natal, à 12 km, Chambois. Mais le maire, la mairesse, ne m'aime pas beaucoup. Donc, elle a tout fait pour m'empêcher d'installer notre chapiteau. Donc, on fait ça dans le petit village d'à côté qui s'appelle Fell. C'est Clochemerle depuis longtemps, les relations entre Chambois et Fell. Et le maire de Fell nous accueille à bras ouverts. Et nous avons accueilli une dizaine de jours, François Bunel, pour parler de la littérature américaine de Jim Morrison qui venait d'Harrison.
Jim Harrison
qui venait de mourir et de, on a mangé des bonnes choses, on a parlé, on a écouté de la musique, on a joué des pièces de Dives et puis on a même fait un bœuf avec Carole Beffin à partir de J'irai revoir ma Normandie. Et donc, voilà. Les gens étaient très heureux. Il y avait plus de 500 personnes et on fait des tablés qui ressemblent à des banquets républicains.
Patrick Frémont, on va revenir à Robert Combas. Quelle est la place qu'il occupe aujourd'hui dans l'art contemporain ?
Il occupe une place qui est à la fois nationale et internationale. Et en fait, il fait partie d'un mouvement qui s'appelle la figuration libre, qui est arrivé au début des années 80, où il y avait aussi Hervé Di Rosa, Boiron, d'une certaine manière Speedy Graffito. Et on arrivait sur des formes d'art abstraites, sur la fin de l'abstraction, avec des gens comme Hartung, un dessin qui était assez froid, qui était assez intellectuel. Et il y a tous ces jeunes qui se mettent à faire une peinture très figurative, très colorée. Donc Combas, c'est évidemment le maître. Et Jacques Lang y a vu même un principe intellectuel de facilité dans l'art, de pratique amateur, de promotion de la pratique amateur, de promotion d'un aller-retour entre un art qui serait facile et un art intellectuel. Et il y a eu cette fameuse ruée vers l'art qui était le mouvement des premières années de Mitterrand, institutionnel, dans les musées, où on a présenté ces peintres-là comme un renouveau. Et en fait, c'est vrai, c'est un renouveau, c'est une espèce de joie de vivre qui peut être aussi des fois un petit peu triste, mais qui symbolise une forme d'art très accessible.
Et par rapport aux pièces africaines que vous exposez, comment se fait aujourd'hui la hiérarchie dans le monde de l'art entre les pièces d'art traditionnelles ?
Alors, on part du plus bas et on va au plus haut. Donc le plus bas, c'est l'art d'aéroport, c'est l'éléphant en faux acajou qui existe en 8 formats différents. Ensuite, on a l'art à esthétique tribale, donc c'est un art qui peut être entre l'art coutumier et l'art d'aéroport, dont le bois, la patine, l'ancienneté, etc., fait penser qu'il pourrait être un art réellement coutumier. Après, vous avez l'art coutumier, c'est des objets qui ont été faits dans des vocations cultuelles et pas dans un rapport de vente avec les occidentaux ou les asiatiques. Et au-dessus, il y a l'art premier qui serait les objets qui auraient été faits avant la rencontre d'autres civilisations. Donc des objets très anciens et qui ne sont pas des objets acculturés. Sachant que l'acculturation donne quand même les plus beaux objets au monde. C'est-à-dire que le reliquaire d'Ogon, qui est en général une sculpture mortuaire avec dessus du laiton, eh bien le laiton, il avait bien été pris sur les bateaux des Occidentaux ou avec les affaires qui étaient faites par la route musulmane. Donc en fait, il y a une espèce de fossé souvent dicté par les conservateurs ou par les grands marchands d'art qui veulent donner à cet art non signé une survaleur en disant que cet objet est unique. Mais je pense que justement, de l'art premier jusqu'à l'art coutumier, il y a une infinie de choses belles et de rencontres qui sont illimitées.
Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Michel Onfray, je rappelle le titre de vos deux livres, Le miroir aux alouettes chez Plon et Penser l'islam chez Grasset. Patrick Frémont, l'exposition 30 estampes de Robert Combas, 30 objets d'art coutumier, un cours de Michel Onfray sur Robert Combas. C'est à voir et à entendre jusqu'au 28 mai à la galerie Frémont et Associés à Vincennes. On va maintenant faire un petit saut au Cap-Vert pour retrouver Claudie Siard en direct de Praia. Bonjour Claudie. Claudicia.
Heureuse femme, pour... oui, bonjour, vous recevez Michel Onfray, vous parlez de Robert Combas. Bonjour Chantal.
Alors Couleur Tropicale est à Praia à l'occasion de l'Atlantique Music Expo et du Criole Jazz Festival. Comment ça se passe ?
Alors, petit pays, hein, disait Césaria Évora, mais grand par la culture et son accueil du monde et des talents de la planète. Alors, il y a effectivement l'Atlantique Music Expo, des concerts jusqu'au 14 avril. Et dans Couleur Tropicale, nous allons recevoir celles et ceux qui sont à l'affiche. Et c'est ici, au Freedom Bar de Praia, que nous allons accueillir nos artistes en live. Il y aura également des propos très militants. Ce n'est pas le prisme de Couleur Tropicale, mais c'est vraiment l'air du temps. Alors, des artistes capverdien du Cap Vert et de la diaspora, des Réunionnais, des Haïtiens. Et puis, enregistrement le 14 avril à 11h, toujours au Freedom Bar. Et là, c'est dans le cadre donc du Creole Jazz Festival. Celui qui est notre hôte, c'est José Da Silva, le célèbre producteur de Césaria Évora et de Elida Almeida, qui est notre lauréate du prix Découverte RFI 2015. Alors, l'occasion de recevoir en public les invités de José et des figures locales également, comme Osto Barros, groupe mythique combattant pour l'indépendance du Cap-Vert, un exemple pour les peuples en lutte contre l'oppression. Voilà.
Merci Claudicia.
Ça va être un grand moment.
Un grand bonjour à nos auditeurs du Cap-Vert. C'est avec vous qu'on se quitte. Demain, on parlera théâtre, musique et encore d'Afrique avec l'acteur Richard Boringer et le chanteur sénégalais Fada Freddy.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.